Et bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux. Il est midi, ou peut-être 17h, et vous écoutez l'onde curieuse de ce jeudi 23 avril. Aujourd'hui, on s'intéresse à la fabrication des images, celles qui accompagnent la musique, celles qu'on regarde parfois sans vraiment se poser la question de leur construction, et ce qu'il y a derrière quelques minutes de vidéo. Un clip, c'est court, mais ça mobilise du temps, des idées, des équipes et toute une chaîne de création. Entre l'écriture, le tournage et le montage, il y a des choix, des contraintes, des ajustements et aussi une certaine manière de travailler ensemble. On va donc parler de réalisation, de création collective et de ce lien entre musique et image avec une association ardéchoise qui s'inscrit pleinement dans cette démarche, R17, une structure qui accompagne des artistes dans la création de leurs clips en portant des projets du début à la fin avec une équipe qui se construit au fil des collaborations. Et pour en parler dans quelques instants, je serai avec Christophe Garnier, réalisateur et directeur de la photographie, et Samuel Pierre, chef opérateur. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et le bonjour aussi à Sylvain, à la technique.
Salut.
Et bonjour aussi. La technique.
Et bonjour à Plex qui coanime cette émission avec moi.
Bonjour à toutes et à tous.
Et avant de découvrir ce qui se cache derrière votre caméra, je vous propose d'abord notre petit tour habituel des événements. Ce soir, une représentation théâtrale est proposée au Théâtre des Quinconces à Vals-les-Bains. À 20h30, le collectif L'Émeute présente une relecture du classique « Le jeu de l'amour et du hasard » de Pierre de Marivaux. Cette version contemporaine revisite le texte original en l'inscrivant dans notre époque avec une mise en scène rythmée et teintée d'influences actuelles. Portée par le jeune comédien, la pièce conserve la trame du jeu de travestissement et de quiproquo amoureux tout en proposant une interprétation moderne et dynamique. C'est donc ce soir à 20h30 au Théâtre des Quinconces à Vals-les-Bains. Ce soir encore, une séance de projection est proposée à la médiathèque Jean Ferrat à Aubenas. À 18h, dans le cadre de Terre de Doc, un focus est consacré à la jeune création avec la diffusion de 4 films réalisés par les étudiants de l'école documentaire de l'USAS, tournés en Sud-Ardèche en 2025. Donc au programme, on a Leur armure de Margot Doué autour d'un groupe de jeunes pratiquant la motocross, Les penseuses de Loa Bourget qui suit les ateliers de soins en EHPAD, On n'est que des petites ruptures de Maya Soreldes, centrée sur les récits de rupture, et le Jumanji de Rose et Millie de Lorraine Lesbains qui explore le passage de l'enfance à l'adolescence. La séance est en accès libre et ouverte à toutes et tous. C'est ce soir à la médiathèque Jean Ferrat à Aubenas. Demain, donc vendredi, une conférence est proposée à la médiathèque intercommunale des Vences. De 18h30 à 20h30, une rencontre aborde la question « Parler de la mort à ses proches ». Donc c'est animé par une intervenante de Thanatosphère et elle propose des repères concrets pour ouvrir le dialogue et exprimer ses volontés. Cette conférence s'inscrit donc dans la série d'événements des vivants et des morts avec un temps sur 2 jours qui est consacré à la question de la mort avec échanges, lectures et propositions artistiques. Et le lendemain, donc le samedi, des lectures collectives et d'autres temps sont proposés également à la médiathèque. Demain, donc encore vendredi, une autre conférence est proposée à Ruons, à la salle polyvalente de la mairie Place Pasteur. À 17h30, l'Amicale culturelle des pays ruonçois invite l'historien Yves Morel pour une intervention intitulée « La viscose à Vals-les-Bains ». Cette rencontre revient sur l'histoire de la fabrication de la viscose, donc qui est une fibre textile artificielle, longtemps présentée comme une soie artificielle, produite à partir de cellulose, donc notamment de bois. Et pour finir, demain à 20h30, la salle Le Nautilus à l'Alvade d'Ardèche accueille le spectacle musical Écomté, le souffle des mers, proposé par la compagnie Les Virevoltantes, à l'initiative de l'association Leda Atomica. Le spectacle s'appuie sur des histoires de vie, des mythes revisités et des chants venus de différents horizons. Le récit met en scène plusieurs figures de mères et leur parcours dans un lieu de rencontre imaginaire où elles échangent autour de leurs expériences. La parole et la musique s'y entremêlent dans une forme de récit choral. Pour comprendre un peu l'univers, écoutons un petit extrait.
Radio Bout du Monde, Radio Bout du Monde.
Vous écoutez Radio Bout du Monde.
Maman, c'est toi, la plus belle du monde. ronde, mais plus jolie.
Pour découvrir ce spectacle, c'est donc demain à 20h30 au Nautilus à l'Alvade. Et nous sommes toujours avec Samuel Pierre et Christophe Garnier pour parler de leur association R17. Mais avant ça, écoutons « J'ai des noms » de San Severino.
J'ai des noms. Captation vidéo du sextape jusqu'au reportage photo. De quoi briser des carrières, faire tomber des patrons. Hier, yeah, j'ai des noms. Je déclencherai même s'il faut des mythos. Oh, wow, je dirais tout. De gens suivant leur style de vice. J'ai les gros dossiers sur à peu près plus ou moins tous les notables. Enfants des beaux quartiers qui ont dans leur dos de drôles de cartables. De sous-table, bacchiche, malversation. J'ai les noms. Des fonctionnaires qui ont outrepassé leurs droits, leurs fonctions. Je suis au courant de tout, si ce n'est d'à peu près tous les dérapages. Pas des ragots ravivés, mais du dossier et du témoignage. Et de ce qui s'est passé jusqu'au bout, je dirais tout.
D'entendre J'ai des noms de San Severino de l'album C'était mieux maintenant. Et vous êtes toujours sur l'onde curieuse et aujourd'hui nous sommes avec Christophe Garnier et Samuel Pierre qui ont notamment réalisé ce clip de San Severino. Mais avant d'en parler, on va déjà remettre un cadre sur votre association R17, en quoi elle consiste et quelles sont vos actions.
Bien. R17, en fait, c'est un support pour nous. Hein. C'est un cadre, en fait, un cadre légal qui nous permet notamment de facturer nos prestations. Et puis, on cherchait pas forcément à en vivre parce que ce serait très compliqué, parce que en plus aujourd'hui on est une équipe un peu importante. Sur le dernier plateau, on était une petite dizaine à la technique et à l'artistique autour de nous, quoi, hein, autour de ce qu'on faisait là, sans parler des acteurs, des figurants, etc. Et voilà, donc moi je voulais simplement que tout ça soit bien cadré et qu'on puisse faire les choses correctement finalement. Et voilà, moi j'ai fermé mon ancienne production suite à des soucis de santé, voilà, donc je pouvais absolument pas continuer ce que je faisais. Et puis, des fois en tombant malade, on se pose des questions et puis on avance vers d'autres choses. Et pour moi, faire de la pub à un moment, c'était plus possible. Enfin. Ça me correspondait pas. Mon premier métier, c'est guitariste, donc la musique, l'image, le clip musical, voilà, tout simplement.
Ouais, avec une association, il y a un peu moins cette nécessité de faire des profits, parce que il faut payer les charges, il faut payer ceux qui viennent avec nous. Là, on a un peu plus de liberté, on peut choisir un peu plus patiemment nos projets et les construire avec un peu plus de temps et de plaisir, quoi.
Et ça s'adresse à quel genre d'artistes?
À tout le monde, j'ai envie de dire, du moment que c'est une musique originale et pas une reprise, nous on est prêt à travailler avec tout le monde, que l'artiste soit connu ou pas du tout d'ailleurs. C'est au contraire, l'année dernière j'ai fait un clip pour Sibyl, qui est Jojacoise, c'est son premier titre, l'album est pas encore terminé, mais elle avait cette envie de clip. Parce qu'elle voulait une écriture, elle voulait quelque chose de scénarisé, de très cinématographique, et du coup, ça s'est fait comme ça, avec vraiment très 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 peu de moyens, quoi. Voilà.
Et vous, personnellement, comment ça vous est venu, cette passion, justement, pour l'audiovisuel?
C'est sans doute venu de mon père, qui était fan de western et qui m'a totalement initié à ça. Et du coup, le western, c'était tout ce côté cinématographique, et même pour entrer dans la technique, anamorphique. Et c'est pour moi des mots qui ont résonné dans ma tête et qui m'ont poussé dans cette voie, tout simplement.
Ça vient en fait... En regardant simplement des films à la télé, au cinéma, et puis on se pose la question de comment est-ce que c'est fait, et on se rend compte qu'en fait c'est juste des gens qui se rejoignent pour se faire plaisir et pour créer, et pour jouer aussi.
Et toi, Samuel, comment t'as découvert justement ce que faisait Christophe? Comment t'as voulu t'impliquer dans ces projets?
C'est vraiment... je travaille dans un bar sur Aubenas, et puis c'est là que Christophe venait de temps en temps pour boire un verre, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis je lui ai dit que je faisais du théâtre, puis en parlant je lui ai dit aussi que j'avais fait une licence de cinéma et que j'avais déjà fait un peu de technique, et voilà. Et puis c'est comme ça, il m'a invité sur son premier tournage, il était en plein milieu du tournage, et puis je l'ai rejoint, et puis ça l'a fait, quoi.
En fait, je l'ai obligé, quoi. Ça, il le dit pas, mais c'est... Je l'ai braqué, quoi.
Non, parce qu'avant ça, Christophe, il était tout seul sur ses tournages. Il portait tout. Il avait pas forcément des gens compétents derrière pour l'aider, pour le remettre en question ou quoi que ce soit. Et du coup, ça apportait un peu, je pense, un peu de fraîcheur dans son travail.
Oui, parce que toi, officiellement, tu es chef opérateur. Ça consiste en quoi, concrètement?
Chef opérateur, c'est celui qui va être en gros derrière la caméra, qui va s'occuper des réglages en fonction de la lumière, de où est-ce que se place le sujet, qui va aussi travailler la composition de l'image. Et voilà, on se cale sur le storyboard, sur les choses qu'on a déjà écrites, et sur la mise en scène aussi qui va suivre.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça se passe, un peu un projet, une genèse, une naissance d'un clip? Ça part de quoi? D'une musique, d'une idée, d'une rencontre?
Ça part très... Le plus souvent, ça part d'une rencontre. C'est-à-dire que soit l'artiste vient vers nous, ou soit on le rencontre lors d'un live, ou soit... ou soit sur les réseaux aussi parfois, où moi-même il m'est arrivé de contacter un artiste en disant « Attends, moi j'aime bien ce que tu fais, j'ai vu que tu n'avais pas forcément de clip. Voilà ce que je fais, qu'est-ce que tu en penses? Moi, une collaboration avec toi, ça me plairait. » Voilà. Donc, mais au départ, ça commence comme ça, mais après, ce qui engendre le projet, c'est vraiment le rapport humain. c'est l'histoire qu'on va pouvoir créer ensemble, et c'est ce voyage qu'on va faire ensemble. C'est donc le projet au départ, bah voilà, moi j'ai cette musique, voilà ce que ça raconte, et là il faut arriver à proposer à l'artiste, comme ça, presque du tac au tac, déjà presque le pitch, voire même le scénario de son clip, en disant bah tiens voilà, regarde, tu vois, on pourrait raconter ça. Voilà. Après, ensuite, sa seconde réaction à l'artiste, c'est de se dire comment on fait ça? Parce que bah il nous faut des chevaux, enfin voilà, je prends des exemples, et puis il nous faut des acteurs, et puis il nous faut des décors. C'est ouais, mais justement, c'est mon boulot, quoi. En fait, le travail d'un réalisateur, c'est de prendre le projet à sa naissance et de l'amener jusqu'à sa première diffusion. Et en passant par la recherche alors le matos, comment on va faire, les figurants, les décors, les lieux de tournage, c'est toujours la catastrophe, c'est ce qui est le plus compliqué à tourner, on passe notre vie au téléphone. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très bien épaulé et très secondé par une équipe de... Vraiment, c'est de l'hyper qualité. Ils vont tous très très loin dans leur domaine. Et ils apportent tous une énorme pierre à l'édifice, et du coup les projets grandissent, parce que forcément je suis plus tout seul, parce que seul finalement on s'aperçoit qu'on fait pas grand chose, et puis surtout on le partage pas, et ça pour moi c'est majeur. Être sur un tournage avec les 10 personnes qui font partie, je vais pas dire de mon staff, mais du staff en fait, c'est, pour moi, c'est magique. Quand je les regarde, je suis l'homme le plus heureux du monde, parce que c'est des jeunes ou des moins jeunes qui ont rejoint l'équipe par envie de faire ce genre de choses, par envie de participer à ces projets, pour l'ambiance aussi qu'il y a sur les tournages, parce que faut reconnaître que, alors je suis pas trop le genre de réel à hurler après les gens, donc du coup c'est plus facile de trouver, enfin sauf sur Samuel des fois un peu, mais
il revient quand même. Je prends pour les autres. Non, il vient pour le catering.
et en fait voilà, et puis avec les moins jeunes on a de l'expérience en plus qui arrive, et puis avec les plus jeunes une balance en fait dans ce que je peux proposer. Moi j'ai plus de 50 ans, enfin à peine, hein, voilà. Samuel a 24 ans, Axel qui est l'assistante de production, etc., et qui a 18 ans. Mais moi ça m'apporte un regard aussi sur ce que je fais, parce que des fois on me dit ouais, alors ton idée de plan là c'est bien, mais bon, ça fait pas un peu vieux truc, tu vois. Vas-y Sam, vas-y, fais-le, le plan, et voilà. Après moi au montage je dis ouais, il avait raison, voilà. Et mais faut être prêt à recevoir ce genre d'informations.
Alors justement, tu parles de montage, est-ce que tu peux nous synthétiser un peu toutes les étapes de ce bébé?
Du montage en particulier?
Non, de l'ensemble, pour arriver à un clip, parce que on n'imagine pas toutes ces étapes, tu vois. En général, on est derrière son écran, on regarde un produit fini qui dure 2-3 minutes, mais on n'imagine pas toutes les phases qui sont derrière.
En fait, le découpage, il est simple, là. C'est-à-dire que, une fois que le projet est lancé, que l'artiste est OK sur un pitch ou une idée de départ, la première écriture, c'est le scénario. Donc là, je lui propose un scénario qu'on fait évoluer ensemble, on essaye d'avancer, je partage avec mon équipe aussi cette étape-là. Et voilà, à force d'ajouter des pierres, on finit par construire quelque chose de sympa. Une fois que le scénario est validé, alors après, on rentre dans la technique, c'est-à-dire qu'on va faire un découpage séquencier. Donc comment on va découper ça en scènes, etc. Et ensuite, ces scènes, on en fait un découpage technique, c'est-à-dire comment on va les filmer. Avec quoi, sous quel angle, avec quelle caméra, comment est-ce qu'on l'éclaire, quelles sont les intentions qu'on cherche dans l'acting. Enfin, voilà, ça réunit toutes ces étapes-là. Donc, on se retrouve parfois, ça dépend les projets, mais entre 15 et 30 scènes à découper et ensuite à tourner. Donc, voilà. Et ensuite, on a besoin de quoi, les lieux de tournage, c'est quoi, etc. Et après, on détermine le nombre de jours de tournage, comment ça va se passer, de l'organisation en général, jusqu'à comment on mange à midi, en fait. Parce que là, le dernier clip, on s'est retrouvé à 30 sur le plateau. Fallait faire manger un petit peu tout ce petit monde, donc voilà. Et ensuite, Bah, une fois que tout ça est validé, ben pouf, on passe au plus marrant, c'est-à-dire le tournage, le plus physique aussi, mais heureusement, ben je suis très très bien secondé, donc c'est beaucoup plus facile pour moi, étant donné, enfin voilà, j'ai quelques petits soucis de santé, mais du coup c'est un peu, voilà, moi ça me soulage énormément. Et surtout, ça me permet de rester à mon rôle de réalisateur, c'est-à-dire ne rien faire. Si ce n'est surveiller ce que tout se passe bien et avoir les yeux et les oreilles de partout et surtout apporter la bonne information à qui en a besoin au moment où il en a besoin. Donc c'est un peu une course contre la montre parce que parfois il se passe plusieurs choses à plusieurs endroits, donc il faut effectivement être un peu partout. Et j'ai tellement la vision globale du projet que les gens se reposent un peu sur moi aussi et puis c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est le rôle du réalisateur.
C'est le rôle du réal, hein, on l'accepte ou pas.
Chef d'orchestre.
Ouais, c'est ça. C'est pas un titre, hein. C'est une charge, c'est une fonction.
Une fonction, ouais.
et puis ensuite, eh bien, vient donc ça, le tournage, la seconde écriture. Et puis j'ai plaisir quand même à dire que le montage est la troisième écriture. Finalement, on vient tous un peu d'écoles de ciné, de BTS audiovisuel, de choses comme ça. Donc on est là pour faire du cinéma, en fait. Et le clip musical, la naissance du clip musical est étroitement liée à celle du cinéma. En France, c'est 1906, je crois, le premier film réalisé avec un calage audio avec les images. C'est une femme qui l'a réalisé, qui était la secrétaire de Charles Gaumont. Et c'est 1906. Et ben en fait, c'était un clip. C'était un mec qui chantait sa chanson, quoi. Donc quand on me dit ouais, mais le clip musical, c'est l'enfant pauvre du cinéma, ça a rien à voir avec le cinéma. Enfin voilà, on est vraiment traité un petit peu comme les derniers de la classe. Et en fait, non, notre histoire est étroitement liée à celle du cinéma. Et en tout cas, nous, on travaille dans cet esprit-là. Moi, j'écris dans cet esprit-là et je ne changerai pas. Et c'est d'ailleurs ce qui fait notre identité aujourd'hui. C'est que les gens, les artistes viennent nous voir parce qu'ils ont cette envie. Donc, ils n'ont pas besoin d'un clip promo. Ce n'est pas pour ça qu'ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont envie d'un clip, mais d'un clip comme on les voyait à la télé dans les années 80, quoi. Et ben moi j'ai envie de dire le clip n'est pas mort avec Michael Jackson, Mylène Farmer elle fait ce qu'elle peut aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, les choses ont changé un peu. Et puis MTV, M6, enfin je sais plus,
W9,
voilà, enfin il y a de moins en moins de choses qui sont diffusées. Ben nous on se bat. Et puis on dit non, attendez les gars, fermez pas les Evan, on en fait encore, quoi. Voilà, donc aidez-nous au moins à diffuser. Voilà.
Maintenant, c'est peut-être effectivement des plateformes numériques comme du YouTube qui vont remplacer ces chaînes comme M6 en diffusion de clips.
Et comme ça, on peut choisir aussi ce qu'on regarde.
Alors oui, mais du coup, c'est noyé aussi dans tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on va trouver des choses effectivement très intéressantes sur YouTube, mais on va trouver des choses très médiocres, et du coup on est mêlé un petit peu à tout ça, et c'est difficile de faire le tri parfois, pour tout le monde, y compris pour nous.
Mais il y a une volonté aussi de continuer à faire vivre cette passion. On peut prendre par exemple votre dernier projet, vous parliez tout à l'heure que votre passion de cinéma était née avec le western. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler comment s'est déroulé un peu le tournage des Burning Fingers pour leur clip Revenge ?
Eh bien, un challenge. C'était un challenge à relever parce que on avait souvent dans le court-métrage, le lien avec notre travail et le court-métrage est finalement assez étroit. Mais la seule différence, c'est que là, on avait 3 jours. Pour faire ce tournage, on avait 23 scènes à tourner, ce qui est déjà quand même beaucoup. Compte tenu du fait qu'il y avait des chevaux, qu'il y avait des figurants, qu'il y avait des acteurs, alors pas de cascade, on leur a pas fait ce coup-là, mais voilà, une fusillade, une course-poursuite sur des toits, enfin bref, voilà, il y avait un petit peu de choses à mettre en place, et on a joué au cow-boy. Pendant 3 jours, on s'est épuisé, on en sort tous les deux avec Sam, très fatigué.
C'est assez vertigineux de préparer un projet pareil, parce que déjà à l'écriture, on se dit, là il faudra des chevaux, là il faudra des flingues, là on va faire exploser ça, il faudra des... Et en fait on se dit, mais comment est-ce qu'on va trouver tout ça? Et Christophe il dit, mais t'inquiète, on va trouver. Et puis ouais, sur le jour du tournage, en fait il y a tout qui est, et en fait il faut juste... là où c'est le plus compliqué, c'est de remettre dans le contexte toute une époque. Mm. Et en fait, à la caméra, ça marche. Quand on s'écarte un petit peu, on voit que c'est des bouts de ficelle. Voilà, c'est ça, en plus. Mm-hmm. Et quand on s'écarte de la caméra, ça, on voit très bien que on n'est pas au Far West, quoi. Mais ouais. Dès qu'on reste dans le cadre de la caméra, ben on s'y croit, quoi, ça marche.
D'ailleurs, pour découvrir un peu les Burning Fingers, on va écouter un petit extrait. D'entendre les Burning Fingers de leur musique Revenge. Et si vous voulez les rencontrer, écouter leur musique, ils seront en concert le 15 mai à la Fabrique à Jaujac, il me semble, et le 20 juin à l'Anas et le 21 juin à Montpezat sous Pezon. Il y a d'autres dates aussi sur leur site internet que je vous conseille d'aller visiter. Et donc pour ce clip que vous avez réalisé, vous avez donc fait les deux premières étapes d'écriture et vous êtes actuellement dans la troisième étape d'écriture qui est le montage. Comment vous faites quand vous êtes sorti de ces trois jours de tournage? Comment vous y retrouvez avec
Alors on s'y retrouve parce qu'avec beaucoup d'organisation finalement, c'est-à-dire que pendant le tournage je sais exactement quelle caméra enregistre sur quel disque dur, etc., etc. Donc ça déjà ils sont... je suis un peu maniaque dans mon genre, c'est-à-dire que quand on sort le matériel de la voiture, les gens qui n'ont pas l'habitude ils me disent « mais attends, il y a des étiquettes sur toutes les caisses, sur toutes les valises et les machins ». Et je dis « bah ouais, mais quand pendant le tournage je vais dire « tiens, tu peux aller me chercher un 35 mm dans la caisse d'optique ». Mmh. Eh ben, un enfant de 6 ans la trouve en fait, et ça c'est génial parce que ça permet à tout le monde d'être autonome. Donc ça c'est un truc auquel je tiens. Et du coup, ben le montage ça se passe pareil. C'est-à-dire que mes rushs sont totalement organisés et quand le premier boulot que je fais quand j'ouvre mon logiciel de montage, c'est de classer mes rushs, tac tac, ça c'est scène 1, scène 2, scène 3, tac tac, ça c'est les filages, l'audio il est là, mes effets audio ils sont là, mes effets vidéo ils sont là, si on a besoin de faire des inserts ou des choses comme ça, enfin tout est hyper classé, et ensuite les logiciels aujourd'hui permettent, du moment qu'on prend le temps de le faire, mais en plein montage vous dites ah là là il manque un plan avec tel acteur, bah tu tapes le nom de l'acteur et lui il va te chercher tous les plans où on voit la tronche de ce mec, tu vois, donc ouais. C'est... Moi, j'ai un assistant, en fait, déjà, quand je monte. Mais c'est vrai que c'est... Après, c'est, quand je dis que c'est la troisième écriture, c'est pas que de l'organisation. Après, c'est aussi une étape qui reste très créative. Très créative parce que c'est pas juste mettre des images les unes après les autres. C'est les mettre à quel moment, qu'est-ce qui va se passer pendant ce moment d'image, parce que parfois on a un rush qui dure, je sais pas, 15 secondes, et en fait on va en utiliser 3, mais il faut vraiment utiliser les meilleures. Et parfois celles qui ont plus d'intention et celles qui emmènent sur l'image suivante. Et arriver à reconstruire l'histoire comme ça, des fois on va chercher des plans dans la scène 2 qu'on n'a pas monté, et finalement on va les monter dans la scène 12. Parce que c'est là où ça aura de l'impact finalement. Donc voilà, et puis tout le travail de colorimétrie. Où en fait, quand on filme, il n'y a pas de couleur, c'est comme le RAW en photo. Voilà, c'est-à-dire que là, il faut recréer tous les tons, toutes les tonalités. Et ce qui est génial dans ce concept, c'est que on recrée notre ambiance colorimétrique. Voilà. Donc
c'est du réétalonnage.
Ouais, il y a une partie étalonnage et une partie colorimétrie où on va aller un peu au-delà de l'étalonnage, c'est-à-dire on va pas forcément faire ressortir des couleurs naturelles, c'est pas forcément ça qu'on veut. C'est faire ressortir les couleurs dont on a besoin et celles qui vont donner la meilleure intention à nos images. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Malheureusement, on est déjà à la fin de l'émission. On a même dépassé un petit peu.
Quel dommage.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup
pour votre accueil.
Et est-ce qu'on peut retrouver vos clips pour ceux qui nous écoutent et qui ne peuvent pas forcément imaginer ce que vous faites, ou est-ce qu'on pourrait les découvrir ?
Alors, j'ai une petite chaîne YouTube que j'utilise surtout pour échanger avec les artistes des versions et des choses comme ça. Je ne veux pas mettre les clips sur ma chaîne parce que, déjà, je ferai 50 vues, donc ça ne sert à rien.
C'est à l'artiste de le faire.
Mais c'est à l'artiste de le faire. Mais du coup, sur ma petite chaîne YouTube qui est Chris Real Pro, si je peux faire un peu de com. Et là, il y a une playlist. Et dans cette playlist, il y a tout ou presque les clips réalisés sur ces deux dernières années, on va dire.
Ok. Eh bien, merci beaucoup. Et merci aussi Sylvain pour la technique. Et merci Plex d'être là avec nous.
Merci à tous.
Merci à vous deux.
Et ne quittez pas Fréquence 7, car à 15h, vous avez le Telex. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. Et à 20h, on retrouve nos amis fans de vinyle qui présenteront leur sélection sur le thème du temps. Et on parle évidemment de l'émission La tête dans le sillon. Et nous, on se retrouve lundi pour parler du printemps du dessin au Château du Pin à Fabras. Ciao.